Vous écoutez RFI, les 8h30 à Paris, 6h30 en temps universel. L'actualité africaine dans RFI Matin. Bonjour Xavier Besson.
Bonjour Nathalie, bonjour à tous. À la une ce matin, la République démocratique du Congo et la proposition de Martin Fayulu. L'opposant souhaite un grand dialogue national pour tenter de mettre à plat la situation dans l'est du pays. Idée qu'il a confiée à Jean-Pierre Lacroix, le chef des opérations de maintien de la paix de l'ONU, en déplacement en RDC cette semaine. Dans ce journal également, la lettre ouverte écrite par l'ancien président gabonais Ali Bongo. Il appelle à la libération de sa femme et de son fils Noureddine et il répète qu'il n'a plus d'ambition nationale personnelle. Les Comores. À Moroni, l'opposition demande la transparence sur l'état de santé du président. Azali Assoumani, poignardé vendredi, officiellement légèrement blessé, mais qui n'a plus fait d'apparition publique depuis. Des questions d'énergie avec le Congo, Brazzaville, qui annonce le lancement en janvier du chantier d'un nouveau barrage hydroélectrique. Et le Kenya, qui passe un partenariat avec les États-Unis en vue de développer le nucléaire civil. Et puis notre dossier ce matin, voyage en bande dessinée dans l'univers d'Akissi de Paris, un nouveau personnage dans la galaxie de Marguerite Aboué, l'autrice d'Aya de Yopougon. Après Kinshasa, le chef des opérations de maintien de la paix des Nations Unies est arrivé hier à Goma, la capitale du Nord Kivu, province de l'Est congolais, en partie contrôlée par les rebelles du M23 soutenus par le Rwanda. Jean-Pierre Lacroix a rencontré entre autres les dirigeants militaires de la province ainsi que le commandant de la force déployée dans la région par la SADC, la communauté d'Afrique australe. Et Jean-Pierre Lacroix appelle à plus de coordination pour soutenir le cessez-le-feu du 4 août dernier. Avant Goma, le diplomate onusien donc était à Kinshasa. Il s'y est notamment entretenu avec le président congolais Félix Tshisekedi, ainsi qu'avec des cadres de l'opposition, des représentants par exemple de l'ancien président Joseph Kabila, du camp de Moïse Katumbi, et il s'est entretenu aussi avec Martin Fayulu, le chef du parti SID, qui ne croit pas au bien fondé de la médiation menée en ce moment par l'Angola et qui pense que la solution à la situation dans l'Est congolais viendra d'un grand dialogue national.
Le processus de Luanda est biaisé. Les pays peuvent se parler. Nous avons un gouvernement de fait ici qui pouvait discuter avec le gouvernement rwandais parce que l'M23, ce sont des supplétifs de l'armée rwandaise. Nous avons dit à M. Lacroix qu'il faut un processus de Kinshasa pour que les Congolaises et les Congolais se mettent autour d'une table, autour de nos pères spirituels, l'Église catholique et l'Église protestante, pour que nous puissions répondre à cette question. Comment arrêter la balkanisation de notre pays, recouvrer l'intégrité territoriale de notre pays? J'ai dit à M. Jean-Pierre Lacroix que je n'étais pas d'accord avec le retrait de la MONUSCO, parce que le gouvernement congolais aujourd'hui est incapable, avec notre armée, à enrayer ce qui se passe là-bas.
L'opposant congolais Martin Fayulu au micro de Pascal Moulegua. L'Est congolais, où l'on apprend par ailleurs qu'un soldat des FARDC a été tué dans la nuit de mardi à mercredi, tué par des tirs provenant du Rwanda à la frontière entre les deux pays. D'après nos informations, son corps a été récupéré après le constat de la délégation du mécanisme conjoint et des autorités militaires du Nord Kivu. RFI, 7h33 à Libreville, au Gabon. Quel avenir pour les bongos? Un peu plus d'un an maintenant, après avoir été renversé par le général Oligui, l'ex-président déchu Ali Bongo s'exprime. Il a fait diffuser hier soir par ses avocats une lettre ouverte. Il y demande notamment la libération de sa femme et de son fils Noureddine, actuellement en détention et poursuivi pour des faits présumés de haute trahison. Il demande aussi la fin des violences contre eux. L'ancien chef de l'État gabonais affirme par ailleurs qu'il n'a plus d'ambition nationale personnelle. Pierre Firsion.
Dans cette lettre de deux pages, Ali Bongo demande à son pays, ses dirigeants et ses concitoyens de ne pas céder à la vengeance contre sa famille. L'ancien président en appelle, je cite, « à l'apaisement, à l'arrêt des violences et des tortures intentées contre ma famille, plus particulièrement mon épouse Sylvia et mon fils Noureddine, et à leur libération ». Sa femme et son fils, qui ajoute-t-il, sont depuis trop longtemps désormais emprisonnés pour des faits dont ils n'ont pas été reconnus coupables, bouc émissaire d'une situation qui va bien au-delà de leur personne. Fin de citation. Concernant sa situation personnelle, Ali Bongo dit ne pas être libre de ses déplacements et affirme être soumis à surveillance quotidienne. L'ancien locataire du palais du bord de mer entend assumer seul son bilan. Il se dit conscient de ce qui a été accompli sous sa présidence, mais admet également des insuffisances. « Je comprends que malgré les réalisations effectuées sous mes mandats, trop de Gabonais souffrent encore. » Et cela reste mon plus grand regret, écrit-il en forme de mea culpa. Ali Bongo assure comprendre la volonté des citoyens de souhaiter de nouveaux responsables politiques. En conséquence, il réaffirme son renoncement définitif à toute ambition nationale. Cela vaut également pour Sylvia Inouradine, prend-il soin de préciser.
Pierre Firsion, aux Comores, cela fait bientôt une semaine que le président Azali Assoumani a été poignardé par un gendarme, un jeune homme ensuite décédé lors de sa détention. Depuis, le chef de l'État comorien n'a fait aucune apparition publique alors qu'il était attendu et annoncé à une cérémonie religieuse dimanche. Et puis qu'ensuite, le secrétaire général du gouvernement a annoncé un retour à la normale pour avant-hier mardi. Désormais, à Moroni, certains sympathisants, notamment chez les opposants comoriens. Correspondance d'Abdallah Mzembaba.
Cinq jours après l'attaque, les Comoriens continuent de s'interroger sur l'absence prolongée du président Azali Assoumani. Daoudou Abdallah Mohamed, ancien candidat à la dernière élection présidentielle, réclame des explications.
Que ce soit sur la mort en détention de ce jeune gendarme, aussi bien sur l'état de santé du chef de l'État. Les autorités ont un devoir de transparence, car on a l'impression qu'on nous cache des choses. Ça fait cinq jours qu'il n'y a pas eu une apparition publique, or on nous dit qu'il est légèrement blessé. Où se trouve-t-il? Dans quel état? Et qui gouverne le pays? Les Comoriens doivent savoir qui gouverne notre pays.
Du côté des autorités, Oumed Msédié, conseiller spécial du chef de l'État en charge des affaires politiques, se veut rassurant et assure que le président a toutes ses facultés et a même eu une rencontre de travail qui a eu lieu mardi dernier.
Le président a reçu des hautes autorités de l'État pour justement parler de cette aventure terroriste de la semaine dernière et des leçons à en tirer. Mais en même temps, on a traité des questions urgentes et prioritaires. Maintenant, il a eu une blessure en train de guérir et incessamment, il se présentera devant son peuple.
En attendant, une source au sein du secrétariat général du gouvernement laisse entendre que c'est le ministre des Affaires étrangères qui représentera le pays à l'Assemblée générale des Nations unies, événement qu'Azali Assoumani n'a jamais loupé jusqu'ici. Abdallah Mzembaba Moroni, RFI.
Au Congo-Brazzaville, ce sera à la fin des travaux, normalement dans 5 ans. Le plus grand barrage hydroélectrique du pays est l'une des solutions apportées au problème d'électricité des Congolais. À Sunda, dans le sud du pays, les autorités annoncent que la construction en partenariat avec une entreprise chinoise d'un barrage ayant une capacité allant jusqu'à 800 mégawatts, cette construction doit débuter en janvier de l'année prochaine. Loïcia Martial.
C'est le porte-parole du gouvernement Thierry Mungala qui a fait cette annonce devant la presse. Thierry Mungala.
Le gouvernement, par le biais du ministère de l'énergie et de l'hydraulique, a signé un protocole d'accord avec la société China Overseas Gyoxin Co. Limited pour le développement du site de Sunda en vue de la production de 600 à 800 mégawatts d'électricité.
Les travaux de ce grand projet devraient durer 5 ans. Le coût global est estimé à 1300 milliards de francs CFA. En attendant cette infrastructure, plus de 2 500 000 personnes de Brazzaville et Pointe-Noire, les deux grandes agglomérations du pays, sont soumises, chaque jour ou presque, aux coupures répétées de courant. Les autorités évoquent souvent des pertes de puissance dans le circuit entre Pointe-Noire et Brazzaville. Pointe-Noire qui dispose, entre autres, d'une centrale à gaz de plus de 450 mégawatts. Mais la malgouvernance de l'opérateur public Énergie électrique du Congo est également pointée du doigt. À ce jour, la Chine a déjà construit 3 barrages hydroélectriques au Congo pour une puissance de 200 mégawatts. Loïcia Martial, Brazzaville, RFI.
Question d'énergie également au Kenya. Nairobi fait un pas supplémentaire vers le nucléaire civil. En marge d'une conférence générale de l'Agence internationale de l'énergie atomique à Vienne cette semaine, les autorités kenyanes ont signé un protocole d'accord avec les États-Unis, un partenariat qui doit aider à sécuriser le déploiement de technologies nucléaires au Kenya, nous explique Gaël Lalex.
La phase 2 du programme nucléaire kényan est en cours. S'enthousiasme sur X la KNRA, l'agence de l'énergie nucléaire kényane. Cette phase prévoit la construction d'une centrale à Uyombo dans le comté de Kilifi sur la côte kényane d'ici 2027 et son raccordement en 2034. D'après James Kitter, directeur général de la KNRA, le protocole d'accord avec les États-Unis permettra de travailler avec les meilleurs de l'industrie. Il faut d'abord que la filière se structure, confesse une source proche de KenGen, un producteur d'électricité kényan. Les ambitions du pays sont grandes, mais le Kenya part de très loin, poursuit cette source. Et puis, il y a la résistance des populations d'Uyombo qui rejettent le projet de centrale nucléaire. De la perte des moyens de subsistance aux menaces sur l'écosystème, en passant par le manque de participation publique adéquate, les raisons de leur défiance sont grandes, explique le Centre pour la justice, la bonne gouvernance et l'action environnementale. D'après les communautés d'Uyombo, le site choisi par la KNRA fait partie d'une réserve naturelle classée par l'UNESCO. Elles ont porté plainte en juillet 2023. Gaëlle Lalex, Nairobi, RFI.
C'est une annonce accueillie avec beaucoup de soulagement en Guinée, à Conakry. On a appris hier l'arrestation au Libéria de Claude Pivi, homme clé du massacre du 28 septembre 2009, condamné pour son rôle dans ces événements à la prison à vie. Claude Pivi qui était en fuite depuis son évasion de prison au mois de novembre dernier. Désormais, le président du Parlement de transition de Guinée demande son extradition pour qu'il réponde de ses actes dans le pays. Dans sa Kourouma, qui est notre invité Afrique ce matin, entretien avec Christophe Boisbouvier. Après ce journal et interview à retrouver aussi sur RFI.fr. En Tunisie, condamnation hier à 20 mois de prison pour Ayachi Zamel. C'est l'un des trois candidats de l'élection présidentielle prévue dans deux semaines. Et il a été condamné hier en première instance pour des accusations liées à des falsifications de parrainage, justement pour sa candidature à l'élection. D'après ses avocats, il va faire appel et il reste candidat au scrutin. Enfin, avant de retrouver Nathalie Amar, notre dossier ce matin nous emmène dans l'univers d'Akissi de Paris, version enfantine en quelque sorte d'Aya de Yopougon, personnage de bande dessinée imaginé par Marguerite Aboué avec Mathieu Sapin au dessin. Akissi qui est basé sur les souvenirs d'enfance de l'autrice et qui entre dans l'adolescence. Sophie Torlotin.
Akissi et son frère Fofana sont envoyés par leurs parents faire leurs études en France. Installés chez leur grand-oncle, ils découvrent à leur déplaisir le climat parisien. À 12 ans, Akissi fait son entrée au collège et a du mal à s'intégrer dans la cour de récréation dont elle ne maîtrise pas les codes. La préadolescente, énergique et sympathique, découvre qu'il y a les élèves populaires, que l'on appelle les beaux gosses, et les souffre-douleurs, surnommés les bolosses, comme Marcel, alias Dictionnaire. Comme lui, la jeune abidjanaise, initiée par son papy excentrique et humaniste, va faire de la bibliothèque sa deuxième maison. Akissi sympathise avec un sans-domicile fixe et s'étonne qu'en France, des personnes dorment dans la rue. Elle découvre aussi que dans la capitale française, les voisins ne se connaissent guère et se saluent à peine. Pour ce premier album d'une nouvelle série, Marguerite Aboué s'est inspirée de ses propres souvenirs d'adolescente en plein choc culturel, mais elle les met au goût du jour, équipant les élèves de smartphones et glissant des expressions modernes. Marguerite Aboué et Mathieu Sapin accompagnent Akissi dans son évolution, mais ne perdent pas au passage la verve et l'attention aux détails qui rendent la série attachante et sincère.
Une nouvelle série, mais cela ne veut pas dire pour autant la fin des aventures et des bêtises des personnages en terre ivoirienne, confie Marguerite Aboué.
J'ai quand même des petits lecteurs qui sont tellement accrochés à cette héroïne et j'ai peur qu'ils ne suivent pas, en fait, Akissi, la pré-ado. Donc, on va continuer. Et puis, comme je demande à chaque enfant que je rencontre de me raconter ses bêtises, je pense qu'il y a de quoi faire.
Et est-ce qu'il y a des nouvelles aventures sur petit ou grand écran?
Il y a une série Akissi en préparation. Là, on est encore au tout début, mais ça y est, tout est signé. Et je suis assez fière de ça parce que je crois qu'elle mérite. Elle mérite sa série, Akissi.
Marguerite Aboué, l'autrice ivoirienne de bande dessinée avec Sophie Torlotin à Abidjan. Il est maintenant 6h44 et vous êtes avec Nathalie Amar pour la suite d'RFI Matin.